7 mois plus tard, à peine le pied sur le sol chinois, comme si je développais une allergie locale, le souci d'élever des enfants me dévasta. Je fulminais. Pourquoi ? Pourquoi ici ? Si la Chine excitait ma fibre paternelle, était-ce parce que les multitudes massées autour de moi me contaminaient en me poussant à ajouter de la vie à la vie ? Ou était-ce au contraire cette sévère limitation des naissances qui me renvoyait à mon cas ? Sur mon téléphone, je me mis à relire les messages d'Irène, laquelle me tenait informée de sa grossesse par de brèves notations factuelles. Dans la voiture qui m'amenait au grand hôtel de Yunhai, mon chauffeur brancha la radio. Pendant le bulletin, un officiel se félicita justement que, grâce à cette loi de l'enfant unique, 400 millions de Chinois n'étaient pas nés. La remarque m'abasourdit. Comment pouvait-on se réjouir de 400 millions de fantômes, autrement dit 400 millions d'absents? Pourquoi investir sur le néant plutôt que sur l'être? Parmi ces foules de Chinois non venus au monde se trouvaient sans doute des gens intelligents, des gens superbes, des gens désirés, des gens courageux, et puis le nouveau Mozart, le prochain Einstein, le futur Pasteur, ceux dont le génie aurait changé l'humanité entière. Non, ici, à part Madame Ming, cela ne choquait personne. Craignant la surpopulation et son corollaire la famine, le gouvernement, les membres du planning familial, exultaient qu'il n'y ait rien. 400 millions de fois rien. Arrivé à ma chambre, je décidai de temporiser avant d'aller saluer Madame Ming. Or, je ne pensais qu'à elle. J'avais envie qu'elle me parle, qu'elle me raconte les aventures des rochetons qu'elle aurait ambitionné d'éduquer. À travers ces broderies où s'épanouissait son imagination, je sentais sa carence d'enfance, sa nostalgie de transmettre, son aspiration à aimer. Les miennes aussi. Quelle idée idiote, mais pourquoi tarder ? 5 minutes après ma résolution de patienter, je me présentais à Madame Ming. Une vraie joie nous envahit, une joie vive, robuste, qui nous surprit nous-mêmes. Profitant de ce que les clients se rendaient peu aux toilettes à cette heure-là, nous bavardâmes, insatiables, attentifs à éviter les thèmes qui fâchent. Elle ne mentionna pas Fleur et Thierry. J'omis de lui préciser que j'avais compris qu'elle fabulait. Malgré nos précautions, la famille débarqua vite dans la conversation. Quoiqu'un Chinois ne discute pas de politique avec un inconnu, encore moins avec un étranger, quand j'évoquais le discours de l'officiel au sujet de la dénatalité, elle pouffa. En Chine, on a réduit la besogne des parents à un seul enfant, mais cela n'améliore ni les parents, ni les enfants. Maintenant, il y a des millions de géniteurs crispés, inquiets et hystériques, trottant derrière un fils qui se croit l'empereur. Notre pays devient une fabrique d'égoïstes surveillée par des névrosés. Dans le couple, qui s'avère le plus frustré selon vous, l'homme ou la femme ? La femme, bien sûr. Pourquoi ? Cela me semble égal. Oh, je sais. Pour la reproduction, l'homme et la femme font un effort louable de répartition du travail. Sauf que, à mon avis, l'homme roule la femme et il prend son pied puis s'en va, tandis qu'elle tombe enceinte. Ce sont les apparences, monsieur, ça. La maternité n'a de réalité que chez les femmes, un plaisir qui dure longtemps. Elle se gratta le chignon et poursuivit. Cette loi de l'enfant unique produit un bénéfice. Les parents ne s'en tichent pas d'un membre de leur progéniture davantage que d'un autre. Ils n'ont pas le choix. Du coup, aucun enfant ne croira plus qu'on lui a préféré son frère ou sa sœur. Moins de souffrance, moins de laisser pour compte. Avez-vous éprouvé cela ? Ru et Zou, 2 fils que j'ai eus à 2 ans de distance, des enfants en or, dotés de dons exceptionnels. Oh, j'en parle avec orgueil, mais sans vanité, monsieur. S'ils sortaient de mes entrailles, ce n'était pas moi qui avais joué leurs qualités au dé. La chance y avait mis sa main. Quel résultat ! Ru se montrait un monstre de mémoire, Zou, un monstre d'intelligence. Ru retenait tout, les termes, les signes, les dates, les anecdotes. Puis, dès qu'il sut lire, les livres qu'il dévorait, Il assimilait des monceaux d'informations sans jamais être rassasié. Sa mémoire ne se limitait pas à une bouche qui engloutissait tout. Elle contenait aussi un estomac affamé. Fallait lui jeter de la pitance. Sinon, il absorbait n'importe quoi. Les modes d'emploi, les horaires des trains sur le territoire chinois et leurs milliers de correspondances. La météo jour par jour des 10 dernières années dans des vieux almanachs. Voir, grâce à des revues héritées de ma grand-mère, les programmes des musicals à Shanghai durant les années 1920. Au début, mon mari lui fournissait des dictionnaires qu'il empruntait au bureau. Il était fonctionnaire. Ou des brochures du parti. Il les lui tendait ainsi qu'on lance des os à un chien pour le distraire. Toutefois, lorsque notre bambin se mit à causer américain après avoir ramassé un manuel d'anglais dans une poubelle, nous sommes convenus de nous occuper sérieusement de son éducation. L'instituteur a conseillé qu'il cultive les langues. Rue, en quelques années, a acquis une connaissance exhaustive des dialectes d'ici. Le Wu, le Kan, le Hakka, le Xiang, le Min. Et du tchèque, du hongrois, du russe, du bulgare, de l'albanais, les idiomes des pays amis communistes pendant les années où l'on avait édifié la bibliothèque de l'école. Seulement, si nous étions impressionnés, nous n'étions pas dupes. Premièrement parce que Ru n'avait qu'une notion livresque de ces langues qu'il n'avait pas entendues. Nous en sommes rendus compte en face de ce Hongrois qui mourait de rire à chaque propos de Ru. Deuxièmement, parce que Ru n'émettait pas d'idées singulières. Comme si sa mémoire avait remplacé l'intellect. Oh, il pouvait discuter en 6 ou 7 langues. Mais que disait-il? Sa conversation lambinait. Rien d'original ne venait traverser son crâne truffé de lexique. Non, pas une image neuve, pas un point de vue personnel, pas une réaction piquante, zéro. Un cul-de-jatte perché sur le vélo le plus perfectionné du monde. Au contraire, Zhou, son frère cadet, manifestait une intelligence véloce. Il n'a certes pas parlé tôt, en revanche, il a d'emblée délivré des phrases complètes. Et quelle phrase ! À 3 ans, il a justifié de quitter ses frères et ses sœurs pendant les Jeux par ces mots. Pas trop d'isolement, pas trop de relations, l'exact milieu, voilà la sagesse. Peu après, lorsque je lui demandais pourquoi il caressait les pommes de terre au lieu de les éplucher, ainsi que je l'en avais prié, il s'exclama « Celui qui déplace la montagne commence à enlever les petites pierres. » Alors que son père le grondait suite à une bêtise, au lieu de se rebiffer comme ses frères ou de pleurer comme ses sœurs, il demeura paisible. Quand mon mari, épuisé, s'enquit de ce comportement, il sourit. L'herbe, si le vent vient à passer, s'incline nécessairement. Au début, sa répartie nous fascina. Cependant, nous découvrîmes qu'il n'enrôlait sa perspicacité qu'au service de la paresse et de la raillerie. Pondre des sentences lui servait surtout à camoufler qu'il ne fichait rien, n'apprenait pas grand-chose et se moquait des autres. Ru constituait sa cible principale. Zhou ricanait dès qu'il étalait un nouvel acquis. Un matin où je me scandalisais qu'il méprisât les dons de son frère, il rognonna « Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine. » Ru éclata en sanglots en hurlant « Méchant !» Zhou haussa les épaules et riposta « On peut feindre d'avoir des sentiments, mais on ne peut pas prétendre avoir des idées. » Je l'ai rabroué. « Ton frère n'économise pas ses efforts, au contraire de toi qui dors sur tes facilités. Il te dépassera, car l'avide d'étudier s'approche du savoir. » « Ah oui, » répondit l'effronté. « Ru a dû oublier de descendre à l'arrêt du bus. » Je l'ai réprimandé, puis lui ai proposé, s'il s'estimait supérieur, d'aider son frère. « D'accord, » conclut-il. Qu'échafauda-t-il ? Nous admirâmes le résultat. Ru, après quelques soirées, se mit à asséner des observations judicieuses, pénétrantes, adéquates à la situation. Tandis que nos 10 enfants discutaient de leur avenir professionnel, Ru déclara soudain « Choisissez un travail qui vous passionne et vous n'aurez pas travaillé un seul jour de votre vie. » Le lendemain, alors que mon mari rapportait qu'au bureau son supérieur l'avait harcelé, bien qu'il ait accompli ses tâches et secouru ses collègues, il proclama « L'homme supérieur ne demande rien qu'à soi-même. L'homme trivial et déméritant demande tout aux autres. » Mon mari, flatté, remercia Ru de sa pensée, Zhu d'avoir développé l'acuité de son frère. Les semaines suivantes, le festival s'intensifia. À l'occasion, la remarque détonnait. Ainsi, quand il dit, pendant que nous évoquions la différence de goût entre les litchis et les kumquats, difficile pour le pauvre de n'éprouver aucune rancune, facile pour le riche de ne pas s'enorgueillir. Ces incongruités arrivaient rarement, et, le cas échéant, Ru semblait si sûr de lui que nous supposions n'avoir pas compris. Bref, ces saillies nous ébranlaient tant que nous négligeâmes de complimenter Zhu. Aussi prit-il moins de précautions et nous poussa-t-il à déceler le secret qui conférait de l'esprit à Ru. Zhu avait ordonné à son frère d'assimiler par cœur les entretiens de Confucius, dont il avait numéroté les maximes. Durant nos papotages, Zhu soufflait un nombre à Ru et celui-ci, une seconde plus tard, prononçait la sentence éblouissante. Avec sa mémoire d'acier, Ru ne s'embrouillait jamais. Au contraire de Zhu, lequel, dilettante, cafouillait, confondait la 83 et la 135, ce qui amenait dans la conversation un aphorisme absurde. En même temps, Zhu était tellement retors que je le soupçonnais de se fourvoyer exprès pour pouvoir jubiler des absurdités émises par son frère. Enfin vint l'horrible dilemme. De quoi s'agit-il ? Nos deux garçons bénéficiaient de dons. Lequel allions-nous pousser en l'envoyant dans une école d'élite à la capitale ? Non seulement nous manquions d'argent, mais l'oncle qui offrait de nous dépanner à Pékin ne possédait qu'une chambre exiguë. Alors, j'ai réuni mes deux fils et j'ai dit « Apprendre sans réfléchir est inutile. Réfléchir sans apprendre est dangereux. Aucun de vous deux ne réussira s'il ne s'amende. Je ne choisirai donc pas. Vous vous succéderez chez l'oncle. Un mois ici, un mois à Pékin. » Figurez-vous que ça a marché. La difficulté les a stimulés, ou la rancœur. Parce qu'ils étaient doués, en retournant à Pékin, ils récupéraient les semaines perdues. Et à la maison, Zhu apprenait, tandis que Ru réfléchissait. Le juste milieu a triomphé. Exact. Ting Ting, mon aîné, assurait que... Le directeur du grand hôtel, en me voyant, m'accapara pour me souhaiter la bienvenue, me signifier ma valeur, n'imaginant pas un instant qu'il cassait un tête-à-tête que j'aurais préféré continuer.